les archives d'Afrique, Alain Foka.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Je suis donc ici pour faire avec vous le point de nos rapports dans la sincérité et la franchise, mais aussi dans la compréhension et le respect mutuel.
Après plus de 15 ans au pouvoir, Omar Bongo est de retour à Paris. Depuis quelque temps, plus précisément depuis l'arrivée de la gauche aux affaires, depuis l'élection de François Mitterrand à l'Élysée, contrairement à la période précédente où il était plutôt bien reçu, bien traité, protégé par Paris, en raison de son engagement à veiller sur les intérêts français dans son pays et à continuer de partager avec l'ancienne métropole cette manne pétrolière sur laquelle il trône, qui revêt une importance capitale dans la politique énergétique de la France, avec les nouveaux qui ne lui sont pas forcément favorables, qui le perçoivent comme le symbole de la droite, comme la continuité d'une certaine politique africaine du général de Gaulle, les liens sont moins fraternels, moins étroits. Mais au fil des ans, il a acquis une certaine indépendance, une certaine liberté. Et même avec les nouveaux, il a retrouvé, malgré les remous et les phrases assassines du début, un certain poids. En tout cas, il est craint, ou du moins respecté. Il est d'ailleurs parvenu à se débarrasser du monsieur Afrique de François Mitterrand, Jean-Pierre Cotte, qui a osé faire la leçon aux présidents africains. Après le pamphlet de Pierre Payan, Affaires africaines, qui le mettait clairement en cause dans la relation mafieuse entre Paris et ses anciennes colonies, il a réussi à déplacer à Libreville, la capitale gabonaise, le premier ministre Pierre Mauroy, pour lui présenter très officiellement les excuses de la France. C'est dans ces conditions qu'il a accepté d'effectuer cette visite en octobre 1984 à Paris.
Vous avez su faire les choses comme nous le faisons en Afrique. En effet, je trouve autour de cette table des amis, de vieux amis de tous bords, qui ont eu à visiter le Gabon, qui ont des sociétés au Gabon, et cela prouve, cela n'était besoin, que désormais la France et le Gabon se comprennent et que vous, personnellement, vous avez su faire les choses. Il est heureux de constater que la coopération entre nos deux pays se fonde résolument sur une approche globale, intégrant l'indispensable notion d'avantages et d'intérêts mutuels.
En gros, en langage peu diplomatique, cela signifie désormais « évitez de me faire la leçon ». Je répondrai coup pour coup aux attaques. Nos intérêts sont liés, souvenez-vous-en. Suite de notre série d'archives d'Afrique, consacrée au président Omar Bongo. Après la tempête qui a secoué son régime en cette première moitié de la décennie 80, malgré la crise qui se poursuit et qui a freiné le prodigieux développement de son pays, puisque les recettes pétrolières ont considérablement diminué, le président Omar Bongo aborde avec un peu plus d'assurance la seconde moitié de la décennie. Ce succès dans son bras de fer avec Paris a renforcé son prestige, son poids sur le plan continental aussi.
J'ai dit que je n'étais pas content parce que ce sommet a été fait pour les États francophones, c'est-à-dire les États anciennement colonies françaises. Et c'est pourquoi nous l'avons appelé conférence franco-africaine. Mais maintenant, on est très nombreux, il y a des lusophones, des anglophones, des arabophones, et on a perdu ce qui était à la base même de cette conférence. Parce qu'au début, on parlait de tout ce qui nous concernait, surtout le pays de la zone franc. Maintenant, quand on arrive, bon, ma foi, on se trouve comme à l'ONU ou à l'OUA. On rencontre des choses qui ne sont pas ce qui intéresse les États francophones.
Omar Bongo, qui ne souhaite absolument pas un élargissement de la francophonie et même des sommets France-Afrique, est très actif sur le plan diplomatique. Il est de tous les grands rendez-vous continentaux. Il s'implique dans les médiations pour la résolution des conflits qui secouent de part en part le continent. Et son approche est assez singulière. Son engagement dans la crise qui oppose le Tchad à la Libye va d'ailleurs lui valoir une distinction de l'Organisation des Nations Unies. Le prix d'Arthur Meicholt, du nom de l'ancien secrétaire général de l'ONU décédé dans un accident d'avion en 1961, alors qu'il se rendait au Congo.
C'est une surprise pour moi, juste au moment où nous sommes occupés à faire autre chose. Et l'événement détaille parce qu'il arrive au moment où tout le peuple gabonais, ni au sein du Parti démocratique gabonais, se trouve en congrès ordinaire. Donc c'est vous dire que cette joie, nous la partageons avec tout le peuple gabonais.
Si le président Omar Bongo se réjouit de ce prix, il sait dans le même temps combien cette médiation sur la question tchadienne est délicate et complexe. Il exprimera d'ailleurs l'année d'après en proposant tout simplement sa démission de la présidence du comité ad hoc de l'Organisation de l'Unité Africaine sur cette question, en raison de ce qu'il considère comme le mépris de la Libye de Kadhafi dans la résolution du conflit tchadien.
Que la Libye a signé la charte de l'OUA, je crois que c'est oui. Est-ce qu'en signant la charte de l'OUA, la Libye a-t-elle oublié que dans cette charte, il est dit clairement que la charte de l'OUA reconnaît l'intangibilité des frontières, de l'intégrité territoriale, et que la bande d'Aouzou fait partie intégrante du territoire tchadien. Mais la Libye occupe toujours la bande d'Aouzou. On fait les réunions, la Libye est absente. Alors, je crois que ce que nous allons faire, c'est un constat d'échec parce que je vais rendre la responsabilité à l'OUA dans la mesure où c'est l'OUA qui a décidé de réunir ce comité. Nous avons souscrit pleinement et rempli correctement nos engagements vis-à-vis de l'OUA, donc de l'Afrique, mais nous n'avons pas pu tirer des conclusions qu'il convenait d'attendre pour la simple raison que la Libye n'a jamais voulu être présent. Alors il appartiendra à l'ensemble des chefs d'État membres de l'OUA de féliciter ou de condamner. On va à la cour de la haie lorsque les gens ne s'entendent pas pour ce qui leur est commun. Supposons que la bande d'Aouzou soit commune à la Libye et au Tchad et que l'un empiète sur l'autre, on pourrait aller à la cour de la haie pour définir que effectivement la limite c'est là, toi tu te mets là, l'autre se met là. Mais tel n'est pas le cas. Et si on veut se reporter sur le lieu, nous chefs d'État, c'est parce que maintenant des commissions, des ministres ou des experts, avec le président du Tchad et tous les chefs d'État de l'OUA, nous rendre sur le lieu, je crois que ce sera aussi une bonne affaire. Moi, je serai en tête du peloton de toutes les façons.
Omar Bongo fera néanmoins partie des dirigeants africains qui, 2 ans plus tard, parviendront lors du sommet de Bamako au Mali à faire discuter directement les deux présidents Hissène Habré et Muammar Kadhafi. Leur poignée de main symbolisera d'ailleurs ce sommet de Bamako en 1989. Il en est l'un des principaux artisans. Le président Omar Bongo est tout aussi actif dans la crise angolaise. Il est l'un de ceux qui, au-delà des clivages idéologiques qui exacerbent les antagonismes dans cette période de guerre froide, prône le dialogue entre les frères ennemis, entre Jonas Savimbi et Eduardo Dos Santos.
L'affaire, il faut les reconnaître, il faut avoir le courage de les dire. L'affaire a été mal à marcher. Ce n'est pas comme ça qu'on aurait dû commencer ce qui a été fait. Je sais que le président Mobutu s'est rendu à Luanda, mais je ne sais pas ce qui a été dit là-bas. Je crois qu'on a voulu signer un cessez-le-feu, ça n'a pas eu lieu. Bon, tant que les affaires ne sont pas encore, ou au moins l'ordre du jour n'est pas encore établi, je ne pense pas qu'il soit nécessaire, franchement, d'envisager une réunion à Libreville.
Vous faites des reproches aux Zaïre de ne pas être assez actifs.
Je ne
dans
fais des reproches à personne.
Conflit.
Je ne fais des reproches à personne. C'est une affaire entre plusieurs États qui sont impliqués là dans cette affaire de l'Angola. Ce n'est pas une affaire des Zaïre. Les Zaïre jouent la médiation. Mais la médiation, pour qu'elle ait du répondant, il faudrait que le parti en conflit participe. Or, je crois que nous apprenons, vous le savez tout bien comme moi, que les armes commencent encore à parler avec violence en Angola.
C'est pour faire taire ces armes qui tônent depuis tant d'années en Angola qu'ils s'impliquent davantage dans cette médiation angolaise, brûlant parfois la politesse à son homologue Mobutu Sese Seko Bendo Wazabanga du Zaïre, qui sur cette question était en première ligne.
J'ai été témoin lorsque le président Dos Santos et M. Savimbi se sont serrés la main pour la première fois.
Comment il a réussi à faire ce tour de force?
C'était à Badolité. Et c'est lui qui avait obtenu cela.
Laure Olgangonjo, proche collaboratrice du président Bongo pendant plusieurs décennies, plusieurs fois ministre.
Il dit à ce moment-là, à son homologue, tu aimes l'Angola, et il dit à l'autre, tu aimes l'Angola. Si vous aimez l'Angola, serrez-vous la main.
Tout simplement.
Tout simplement. C'était très fort, c'était puissant comme message.
Absolument.
Donc, pour dire, d'abord votre pays, d'abord l'Angola. Vos personnes ne comptent pas. Ou compte moins.
Libreville va être pendant toutes ces années une destination, une capitale où se succèdent les dirigeants de tous bords politiques. Ils viennent consulter celui qui se présente dans cette région comme l'un des chantres du dialogue. Même les révolutionnaires qui dénoncent la France-Afrique ne vont pas bouder cette destination. Thomas Sankara, le héros de la révolution voltaïque, est accueilli dans la capitale gabonaise avec tous les artifices.
Je voudrais remercier le président Bongo, remercier les membres de son gouvernement, de son parti et surtout le peuple gabonais qui ont réservé à la délégation voltaïque un accueil très chaleureux, très vibrant. Nous l'avons remarqué à l'aéroport et au cours de notre séjour, les différents contacts tout à fait simples mais agréables que nous avons eus avec les uns et les autres. En vous remerciant pour tout cela, je crois que nous tirons aussi la satisfaction de voir un pays africain qui c'est vivre en parfaite harmonie avec d'autres pays africains, quelles que soient les régions d'Afrique auxquelles nous appartenons.
Malgré les soubresauts, malgré les remous que va connaître la révolution burkinabé, le président Omar Bongo va garder un lien affectif avec le chef de la révolution. C'est lui qui, après l'assassinat de Thomas Sankara en octobre 1987, va parvenir à sortir sa veuve retenue sur place et l'accueillir à Libreville. Il envoie un avion la chercher avec deux engagements pris pour le compte de Mariam Sankara. Abstention de toute déclaration politique et non-engagement dans les activités politiques. Enfin, la veuve de l'icône de la révolution sankariste peut quitter son pays. Direction Libreville.
On va voir tout de suite avec Patricia Charnelet et Philippe Arouard si l'on peut avoir quelques chiffres sur la répartition des sièges par parti. Alors, tout d'abord, pour les partis de droite, Patricia Charnelet.
Effectivement, nous avons d'ores et déjà une répartition par siège, mais là encore, il faut rester très très prudent, puisque je vous le rappelle, il ne s'agit qu'une estimation qui pourrait s'affiner d'ici quelques minutes. Alors, dans l'état actuel des choses, le RPR, vous allez voir les chiffres s'inscrire sur votre écran, obtiendrait 149 sièges, l'UDF 140 sièges, les diverses droites 6 sièges et le Front National 33 sièges. Vous êtes capable, bien évidemment, comme moi, de faire le calcul et donc de calculer RPR plus UDF et nous arrivons à 289 sièges. Je vous rappelle que c'est le chiffre qu'il faut pour avoir la majorité absolue à l'Assemblée nationale, mais là encore, restons très prudents. Il ne s'agit que d'une estimation.
Si Omar Bongo est de tous les rendez-vous continentaux, il accorde un intérêt particulier à ce qui se passe dans le paysage politique français. Et cette élection législative, remportée en 1986 par la droite, qui installe son protégé, son ami, un gaulliste à Matignon, est une victoire. Jacques Chirac est nommé Premier ministre. Un motif de satisfaction pour lui. Cette cohabitation qui démarre et qui ramène un Jacques Faucard vieillissant dans le sillage de Jacques Chirac est une bonne nouvelle pour lui. Il va pouvoir à nouveau revigorer les réseaux, même si François Mitterrand s'emploie à lui barrer la route, à conserver à travers son fils Jean-Christophe la main sur la politique africaine de la France. Cela n'est pas grave. Il a bien compris que pour faire durer son pouvoir, pour se mettre à l'abri des attaques et des remous politiques qu'il a connus au début de la décennie 80, il faut peser sur les hommes politiques français. Il faut qu'ils lui soient redevables, qu'ils l'influent sur le paysage politique de l'ancienne métropole. À travers ELF, il leur donne de l'argent, des sommes colossales. Il finance à la fois leur campagne, mais également le train de vie de certains d'entre eux. Même si sa préférence va aux gaullistes, il distribue à tout le monde, sans distinction de couleur politique. Même le Front National de Jean-Marie Le Pen vient à la soupe à Libreville. Le leader de l'extrême droite, dans une curieuse tournée africaine, effectue naturellement le pèlerinage du Gabon.
Le futur candidat s'efforce de forger une image d'homme d'État. 3 jours pour cela en Afrique noire, Côte d'Ivoire, Gabon, Zaïre. 3 jours où l'on parlera sans doute davantage de coopération que d'immigration. Interlocuteur oblige.
Le président Bongo et le Gabon constituent des modèles de réussite.
Des modèles de réussite qui vont surtout aider à financer sa campagne pour la présidentielle en 1988. Casimir Oyemba, ancien premier ministre du Gabon, était encore gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique centrale, la BEAC.
Monsieur Le Pen entreprend une tournée en Afrique noire dans 3 pays, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Gabon. Il passe au Sénégal, il n'est pas reçu officiellement, tout au moins, par Abdou Diouf. Bien. Il va à Abidjan. Il n'est pas non plus reçu officiellement le président Oufo-Boigny. Il vient au Gabon, il est reçu officiellement. Quand je dis officiellement, ça dit caméras de télévision, les journaux, etc. etc. 5-6 mois après, je passe à Libreville, j'ai une audience avec le président Omar Bongo, et je ne sais pas pourquoi la conversation vient au voyage de Le Pen. Je dis, patron, vraiment, moi j'ai été troublé que vous ayez reçu Monsieur Le Pen. Et puis il m'a donné sa réponse, c'est sa position, qui était une position, comment dire, d'homme politique réaliste et froid, n'est-ce pas? Il dit, oui, moi je suis le président du Gabon. Le Pen, il veut être président de la France. Il est candidat là-bas. Moi, je ne sais pas qui va gagner en France. Il dit, j'espère que ce sont mes amis qui vont gagner. Mais si Le Pen gagne, mais j'espère qu'il se souviendra au moins que moi, je l'ai reçu. Il me dit, deuxièmement, tu me dis que, voilà, si Le Pen arrive en France, président... Il va chasser tous les étrangers, en particulier les Noirs, etc. Il dit, moi, c'est pas mon problème. Il dit, il y a combien de Gabonais en France? Il y a à peu près 3000 Gabonais. Ce sont des jeunes qu'on envoie dans les écoles, les universités et tout ça. Si Le Pen arrive président et qu'il dit, il faut chasser tous les Noirs, moi, je loue 2 ou 3 avions, je mets tous les Gabonais qui sont dedans, ils rentrent au Gabon. Et puis, ceux qui voudront continuer leurs études, on les envoie dans d'autres pays. Ceux qui voudront commencer à travailler, on leur trouve des places, ils travaillent. Il dit, ça c'est le problème du Mali, du Burkina, c'est pas mon problème. C'est d'un réalisme froid.
C'est surtout un calcul politique personnel froid, il faut le reconnaître. Il faut tenir Paris, être toujours du côté de celui qui va s'installer à l'Élysée. Omar Bongo était persuadé que cette position, cette stratégie, préserverait son régime de toute agression, à la fois intérieure, mais également extérieure. Laure Olgan-Gonjou, collaboratrice du président Omar Bongo.
Je dirais que le Gabon a été pendant un moment la cendrillon de la France, comme le disait le président Léomba. Et puis, on s'est rendu compte qu'après, le Gabon était devenu la pépite. Et le président l'avait bien compris. Mais le créneau France, ou le segment France, était l'exclusivité du président de la République. Il était le seul à gérer ce dossier.
Mais cette stratégie, cette propension à s'appuyer surtout sur l'allié français, à tenir les hommes politiques français, ne va pas le préserver de la tourmente, de la bourrasque qui va s'abattre sur le Gabon dans les mois qui vont suivre. Le président, s'il rayonne à l'international, si sa voix porte sur le plan continental, et s'il est craint ou au moins courtisé par les leaders français de tous bords, a peut-être oublié ou minimisé l'ampleur du malaise que suscite à la fois la crise économique qui frappe son pays de plein fouet, mais aussi et surtout le mécontentement que font naître les inégalités et la corruption de son régime. L'opposition s'organise, la rue aussi. Et la contestation commence à monter, comme nous allons le voir dans une dizaine de minutes, dans la suite de cette série d'archives d'Afrique que nous consacrons au président Omar Bongo Ondimba. Rendez-vous donc dans une dizaine de minutes, juste après une nouvelle édition du journal. L'opposition est aux portes de Libreville et de Port-Gentil. À très vite.
Archives d'Afrique, Alain Foucault.
Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Mais la plus grande victoire, c'est dont je suis fier, c'est d'avoir fait l'unité nationale.
Et votre échec, si vous en avez ?
Il y a toujours des échecs.
Celui qui vous fait le plus mal, c'est quoi ?
Le plus mal ? La crise.
La crise. Une crise qui fragilise son régime. Si sur le plan international, le président Omar Bongo est parvenu en une vingtaine d'années à devenir un interlocuteur écouté, à faire de l'importante et précieuse manne pétrolière du Gabon une arme, un instrument qui lui vaut d'être particulièrement courtisé par les hommes politiques de l'ancienne métropole, s'il est arrivé par une diplomatie singulièrement efficace à devenir l'une des voix du continent et l'un des médiateurs les plus influents dans les conflits qui ensanglantent l'Afrique de part en part, en ce milieu de la décennie 80, l'émirat pétrolier dont tout le monde parlait, la Suisse d'Afrique que décrivaient certains médias, le miracle gabonais qu'évoquaient quelques-uns, traverse l'une des pires crises de son histoire. La baisse drastique des recettes pétrolières et l'inégale distribution des richesses suscitent le mécontentement. Et même si le président est parvenu dans un premier temps à faire taire l'opposition, à la museler avec le concours de Paris, l'accalmie va être de très très courte durée. Les premières victimes de cette récession vont être les nombreux immigrés clandestins qui ont afflué dans le pays au cours des années de prospérité du Gabon. Malheureusement, comme de tradition, dans l'ensemble des pays, l'insécurité et la menace d'instabilité leur sont attribuées dans un premier temps.
À partir du 15 ou 30 juin, alors c'est la débandade. Je demande donc au ministre des Affaires étrangères de commencer à convoquer tous ses ambassadeurs de pays amis. Et tous les ambassadeurs des pays amis, tous les ambassadeurs installés au Gabon qui ont des ressortissants, il faut que nous les connaissions et nous sachions où ils sont.
Suite de notre série d'archives d'Afrique consacrée à Omar Bongo Ondimba.
Et la création de notre université, nous avons formé beaucoup de docteurs. Des docteurs en philosophie, des docteurs en droit, des docteurs en sociologie, des docteurs en médecine. Il est grand temps que les écoles spécialisées et les centres de formation professionnelle nous sortent un nombre suffisant de Gabonais capables de remplir correctement la gamme les différents métiers indispensables à la construction nationale.
Après les années fastes de la décennie 70, symbolisées par la construction des infrastructures et les grands chantiers, le Gabon est entré dans une phase de récession. Les revenus pétroliers se sont contractés à une vitesse impressionnante. De 400 milliards de francs CFA en 1985, on est tombé à 285 milliards l'année suivante. Pour la première fois, Elf Gabon, la plus puissante entreprise du pays, affiche une perte sociale de 36 milliards de francs CFA pour l'année 1988. Et même si sur le territoire, dans la forêt gabonaise, on s'apprête à inaugurer en zone onshore un gisement géant, celui de Rabikunga, découvert en 1985, qui représente l'une des plus importantes réserves jamais mises au jour, la situation financière est catastrophique. Le Gabon est obligé de se tourner vers Paris pour honorer certains engagements. On est en plein plan d'ajustement structurel avec le Fonds monétaire international qui maintient la pression pour une meilleure orthodoxie financière. Le Gabon ouvre des négociations avec les bailleurs de fonds pour un rééchelonnement de la dette qui s'élève alors à plus de 100 milliards de francs CFA.
Le Gabon, par exemple, l'un des pays réputés les plus riches d'Afrique, se fait désormais aider parfois par la France pour des fins de mois quelquefois difficiles. François Mitterrand et Jacques Chirac ont proposé comme thème de débat à leurs homologues les matières premières. Elles regorgent en Afrique, comme le cacao, le café ou le coton, mais leur cours ne cesse de baisser et d'amplifier la crise.
À 5h moins le quart ce matin, premier coup de pioche sur le mur de Berlin. Des dizaines d'Allemands, Est et Ouest, sont montés sur le monument historique. La zone interdite est aux mains de la jeunesse allemande. Le cadenas est cassé et les portes s'ouvrent. Vers 23h la nuit dernière, des milliers d'Allemands de l'Est ont forcé les frontières qui séparaient l'Est et l'Ouest. Les gardes frontières n'interviennent pas.
Ce 3 novembre 1989, presque personne n'imagine en Afrique que ce vent de démocratie qui a fait tomber le mur de Berlin va souffler jusqu'au sud. La perestroïka, la glasnost de Mikhail Gorbatchev, qui met fin à la guerre froide, semble si lointaine. Et pourtant, les Africains, du moins les oppositions jusque-là bâillonnées, notamment celles en exil, vont tenter de surfer sur cette vague pour faire entendre leur voix, pour interpeller les grandes puissances occidentales. Le Bénin, dirigé par Mathieu Kérékou, va être le premier touché. Dès le mois de décembre 1989, à l'issue d'une réunion exceptionnelle des plus hautes instances politiques, elle annonce l'abandon du parti unique, du marxisme-léniniste et l'organisation d'une conférence nationale des forces vives de la nation. Elle est prévue pour début 1990 pour définir les fondements de l'ordre nouveau. C'est la fissure dans la forteresse africaine. C'est dans cette ambiance d'agitation sociale et politique que Libreville annonce la découverte d'un complot en préparation visant à assassiner le chef de l'État, Omar Bongo. On accuse alors Pierre Mamboundou, un fonctionnaire international travaillant pour l'ACCT, l'Agence de coopération culturelle et technique qui est partie de la francophonie.
J'ai donc le 14 juillet, en profitant du bicentenaire de la Révolution française, déclaré l'existence de l'Union du peuple gabonais. En 1989, créé l'Union du peuple gabonais, c'est dans la position d'être en marge d'une société monolithique qui avait ses règles calquées sur le parti unique. Donc mettre en place un parti d'opposition, c'était casus belli à l'époque, puisqu'il ne fallait pas être en marge de l'ordre établi. Et les difficultés ont commencé là. On a estimé que la déclaration que j'avais faite du parti l'Union du peuple gabonais le 14 juillet était une violation de l'ordre, je dirais, monolithique et constitutionnel établi.
Là encore, le président Omar Bongo va faire jouer ses relations. Son poids sur les politiques français va être déterminant, puisqu'il va obtenir l'arrestation à Paris de Pierre Mamboundou, au petit matin à son domicile.
Il a été accusé d'avoir attenté à la vie du président Bongo, mais là, la procédure suit son cours. Il a déclaré qu'il n'était pour rien pour ce coup d'État. En fait, je pense que c'est un pseudo-complot. Monsieur Pierre Mamboundou est président de l'Union du peuple gabonais. C'est un parti d'opposition. On veut le faire taire, c'est tout.
Pierre Mamboundou est expulsé vers le Sénégal.
Il y a eu une certaine pression qui s'est exercée autour des dirigeants politiques de l'époque en France. Et vous savez très bien que la France-Afrique était très, très, très puissante. Et il y a eu des pressions sur le gouvernement de l'époque qui, curieusement, était un gouvernement socialiste, président François Mitterrand, Premier ministre Monsieur Rocard, Michel
Rocard,
et ministre des Affaires étrangères Dumas. Et ce sont ces trois personnalités qui ont décidé de me mettre la porte de la France.
Bien sûr, cette expulsion braque à nouveau les projecteurs sur le Gabon et son président. La presse française notamment dénonce un régime corrompu, protégé par le réseau France-Afrique. Cette année 1989 correspond aussi au retour au pays d'un autre opposant au régime d'Omar Bongo, le père Mbabe Sol, qui avait quelques années plus tôt dénoncé les arrestations et les condamnations des opposants. En mai 1989, le président Omar Bongo, souhaitant affirmer une inclination réformiste, autorise la venue de Mbabe Sol pour une semaine. C'est même lui qui l'invite en fait. Il est à cette occasion traité plus comme un dignitaire en visite que comme le leader d'un parti politique d'opposition. Le président a choisi sur ce coup la stratégie de la séduction, de la récupération. Il prend attache avec le père Mbabe Sol. Qu'est-ce qui vous amène à cette période à ouvrir le dialogue avec le président Omar Bongo qui ne manifestait pas vraiment un désir de changement ou de démocratisation de son régime, mon père?
Alors, Omar Bongo, qui était un homme enraciné dans sa culture, finalement s'est dit, il faudrait que je rencontre ce prêtre-là, c'est quelqu'un qui a fait des études, c'est quelqu'un qui connaît notre peuple, il faudrait que je puisse lui demander ce qu'il veut, C'est comme ça qu'il a envoyé, j'ai dit son nom clairement, le général Samuel Mbaye. Mbaye est venu me voir, il a dit, voilà, le président vous fait dire que, bon, vous avez votre point de vue, c'est normal, mais est-ce que vous accepteriez de venir au Gabon pour discuter avec lui, pour qu'il comprenne exactement sa position, ta position, votre position, et pour que vous compreniez aussi sa position. Mais j'ai dit, mais il n'y a pas de problème, quelqu'un qui veut discuter avec moi, je viens. Et c'est comme ça que je suis venu en 89.
On connaît la facilité, la propension du président Omar Bongo à acheter certains esprits, à convaincre souvent ses adversaires par l'argent. On a souvent dit qu'il a acheté votre adhésion, que vous avez reçu pas mal d'argent pour ce rapprochement.
Je vais vous dire toute une chose. Jamais, Bongo et moi, on a parlé d'argent.
Vous n'avez pas reçu de valises, d'argent, de chèques ?
On n'a jamais parlé d'argent. On avait dit, les Français avaient dit à Bongo, si vous voulez réussir avec Babassou, ne lui parlez pas d'argent. Parce que des essais avaient été faits sur moi à Paris. Sur ça. Ne lui parlez jamais d'argent. Sinon, vous cassez tout. Omar ne m'a jamais parlé d'argent. Est-ce que tu as besoin de quelque chose d'autre ? Jamais.
Mais cette rencontre avec l'opposition ne va pas calmer la colère de la rue qui gronde. Devant une situation sociale de plus en plus précaire, elle ne veut plus se taire. Entre le plan d'ajustement structurel qui a mis au chômage de nombreux chefs de famille, les privatisations imposées de certaines entreprises, la colère monte. Et les manifestations se multiplient à Libreville en cette fin d'année 1989. Le pays est au début de l'année 1990 le théâtre de nombreuses contestations.
Moi, je crois que le multiparti, ce n'est rien. Le parti, vous savez, avait le Parti démocratique gabonais qui régissait la politique au niveau des partis ici. Bon, et j'ai remplacé le Parti démocratique gabonais par le Rassemblement social démocrate gabonais. Ce rassemblement va rassembler tout le monde, tout un chacun, tout ce qu'ils veulent. Ils doivent participer à la vie du pays dans le sens le plus large possible.
À Libreville, en cette seconde moitié du mois de janvier 1990, les manifestations des étudiants vont mettre le feu aux poudres. Les fonctionnaires, les salariés des entreprises, des secteurs publics et parapublics vont suivre. Le pays semble échapper au contrôle du président Bongo, puisqu'après la capitale, c'est Port-Gentil qui s'enflamme à son tour. Les revendications sont économique. Les populations réclament entre autres une meilleure redistribution des richesses. Il faut dire que les salaires ont été gelés depuis 1986. Sa marge de manœuvre est étroite avec les mesures imposées par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale dans le cadre des ajustements structurels. Mais il faut montrer patte blanche. Il faut donner des gages s'il veut sauver son régime. Après avoir aboli le prélèvement obligatoire destiné au Parti démocratique gabonais, puis la taxe pour la Confédération syndicale gabonaise, et la taxe exceptionnelle de solidarité, il s'engage à faire un geste pour l'amélioration du niveau de vie des populations. Il procède à une augmentation des salaires.
Et ce travail s'est fait. Mais entre-temps, il est évident que il y a des plus pressés qui ont fait des grèves, il y a eu des manifestations de grève ici et là. Bon, on a remanié le gouvernement, les gens que pour lesquels la population pensaient que ce n'était plus ça. Bon, ils sont partis, le Premier ministre a refait le gouvernement, et ce n'est qu'un gouvernement encore provisoire.
Cette augmentation, ce geste, ne va pas calmer les esprits. La population souhaite un vrai changement politique et économique. Elle poursuit les manifestations. Sous pression, dans la vague des conférences nationales qui se multiplient sur le continent depuis celle de Cotonou, le président Omar Bongo décide de convoquer une conférence nationale. Elle est prévue pour le 27 mars 1990. Il a rencontré quelque temps avant le père Paul Mba Abessol. Que vous dit-il pendant votre tête-à-tête, le père Mba Abessol ?
Alors, la première chose, je me dis, mais je croyais que vous étiez un méchant garçon, mais rien qu'à vous voir comme ça, je ne peux pas m'imaginer que vous soyez tout ce qu'on m'a dit sur vous. Je dis, monsieur le président, vous voyez ? Alors, je dis, moi, c'est très simple. Je suis prêtre. J'ai fait ce travail pour aider. Je voudrais que, bon, je souhaite que tous les Gabonais puissent s'exprimer dans un cadre pluriel. C'est ma lutte. Si on arrive à cela, moi, ma mission est terminée. Et à partir du moment où vous reconnaissez le Morena, vous allez instaurer le multipartisme au Gabon. Moi, j'ai fini ma mission, je m'en vais. Elle me dit, oui, mais oui, il faut instaurer le multipartisme, mais enfin, ça ne va pas se passer, vous là-bas à Paris, et moi ici, il faudrait quand même qu'on soit en relation en permanence. J'ai dit, c'est à vous d'étudier ce qui est pour moi essentiel, ce que tous les Gabonais puissent s'exprimer librement. Voilà, tout a tourné autour de ça. Et il m'a dit, bon maintenant, si nous sommes d'accord, mais nous ne sommes pas les seuls Gabonais, il faut maintenant que nous organisions une réunion pour que tous les Gabonais nous disent qu'ils sont d'accord avec ce que nous avons dit là. Et c'est comme ça qu'on a préparé la conférence nationale.
Avec l'organisation de cette conférence nationale qui va aboutir à l'instauration du multipartisme, il se dit qu'il a désamorcé la crise, que les esprits vont se calmer. Erreur. Le plus gros de la contestation est à venir avec la mort suspecte dans un hôtel de son principal opposant, en tout cas le plus crédible, Joseph Renjambe. Disparition qui va mettre le pays à feu et à sang. Elle va constituer un véritable tournant dans l'histoire contemporaine du Gabon, comme nous le verrons la semaine prochaine dans la suite de cette série d'archives d'Afrique que nous lui consacrons. Et surtout, n'oubliez pas que vous avez également la possibilité de réécouter l'émission sur le site du RFI et de continuer de réagir comme vous le faites sur notre page Facebook. Archives d'Afrique, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous poursuivrons la conversation sur cet autre espace en vous donnant rendez-vous sur l'antenne pour la suite de la série consacrée à Omar Bongo Ondimba la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Focam, nous vous souhaitons un bon week-end à l'écoute des programmes de Radio France Internationale. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur RFI. À très vite.
Acalizio, acalizio.